En ce début de culte, nous lisons un des textes du jour dans le premier livre de Samuel au chapitre 3, du verset 1er au verset 19. Le jeune Samuel assurait le service du Seigneur en présence du prêtre Élie. La parole du Seigneur était rare en ces jours-là et la vision peu répandue. Un jour, Élie était couché à sa place habituelle. Sa vue avait baissé et il ne pouvait plus bien voir. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Samuel était couché dans le temple du Seigneur, où se trouvait l'arche de Dieu. Le Seigneur appela Samuel, qui répondit « Me voici ». Il courut vers le prêtre Élie et il dit « Tu m'as appelé ? Me voici ». Élie répondit « Je ne t'ai pas appelé, retourne te coucher ». L'enfant alla se coucher. De nouveau, le Seigneur appela Samuel, et Samuel se leva. Il alla auprès d'Élie et il dit « Tu m'as appelé ? Me voici. » Élie répondit « Je ne t'ai pas appelé, mon fils. Retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur, et la parole du Seigneur ne lui avait pas été révélée. De nouveau, le Seigneur appela Samuel. Celui-ci se leva, il alla auprès d'Élie et il dit « Tu m'as appelé, me voici. » Alors Élie comprit que c'était le Seigneur qui appelait l'enfant. Et il lui dit « Va te recoucher et s'il t'appelle, tu diras « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. » Samuel alla se recoucher à sa place habituelle. Le Seigneur vint. Il se tenait là et il appela, comme les autres fois, « Samuel, Samuel !» Et Samuel répondit, « Parle, ton serviteur écoute. » Le Seigneur dit à Samuel, « Voici que je vais accomplir une chose en Israël, à faire tinter les deux oreilles de qui la prendra. Ce jour-là, je réaliserai contre Élie toutes les paroles prononcées au sujet de sa maison, du début à la fin. Je lui ai annoncé que j'allais juger sa maison pour toujours à cause de cette faute, sachant que ses fils méprisaient Dieu, il ne les a pas repris. Voilà pourquoi je le jure à la maison d'Élie, ni sacrifice, ni offrande, rien ne pourra jamais effacer la faute de la maison d'Élie. » Samuel resta couché jusqu'au matin, puis il ouvrit les portes de la maison du Seigneur. Mais Samuel craignait de rapporter à Élie la vision. Élie appela Samuel et dit « Samuel, mon fils !» Et il répondit « Me voici !» Élie ajouta « Quelle est la parole qu'il t'a adressée ? Ne me la cache pas, je t'en prie, que Dieu amène le malheur sur toi, et pire encore, si tu me caches le moindre mot de toute la parole qu'il t'a adressée. » Samuel lui rapporta toutes les paroles sans rien lui cacher. Alors Élie déclara « C'est le Seigneur, qu'il fasse ce qui est bon à ses yeux. » Samuel grandit, le Seigneur était avec lui et il ne laissa aucune de ses paroles sans effet. Thank you.
Avec Jean Chrysostome, Bouche d'or, il dit « Il n'est rien qui rende aussi joyeuse notre vie que la satisfaction que l'on goûte à l'Église. À l'Église, on observe la joie des gens joyeux. À l'Église, le courage des gens découragés. Mais aussi à l'Église, la gaieté des gens attristés. À l'Église, le soulagement des gens épuisés. À l'Église, le repos des gens lassés. C'est au repos que nous engage le Maître après les fatigues. C'est la détente qu'il procure après les tracas. Céleste invitation. Le Seigneur avec vous, qui donne la grâce et la paix. » Eh bien, je vous invite à vous lever, à vous relever pour invoquer le Seigneur notre Dieu. Béni sois-tu, Seigneur, pour ta fidélité, que ma bouche célèbre tes louanges. Permets-moi de voir ta lumière. Amen. Et maintenant, nous chantons. Nous prenons à la page 234 de notre recueil le chant 2106. Le 2106, légèrement introduit par Myriam, qui est au piano. Avec le psaume 145, nous continuons cette louange. Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent. Il redresse tous ceux qui sont courbés. Tous, avec espoir, tournent les yeux vers toi. C'est toi qui leur donnes de la nourriture en son temps. Tu ouvres ta main et tu rassasies à souhait tout être vivant. Le Seigneur est juste dans tous ses chemins et fidèle dans tous ses actes. Le Seigneur est proche de tous ceux qui t'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec loyauté. Il réalise les souhaits de ceux qui le craignent, il entend leurs appels au secours et il les sauve. Que ma bouche dise la louange du Seigneur, que pour toujours et à jamais, tout être bénisse son nom sacré. Prions un instant cette prière de conversion. Notre Dieu, notre conversion n'aurait pas assez de force si nous n'avions pas dans notre cœur la sensation d'une grâce infinie. Alors oui, je retourne vers toi, Seigneur, là où tu te tiens, dans la bienveillance. L'apôtre Paul déclare « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. » Cette promesse est pour nous lorsque nous doutons sur notre chemin, lorsque nous nous sentons indignes, lorsque nous plions sous la routine ou la difficulté de l'existence. Cette nouvelle création n'est pas le fruit de nos repentirs ou de nos efforts. Elle est l'œuvre du Seigneur et que Dieu nous mette au cœur l'assurance de son pardon et qu'il nous donne de marcher vers son royaume. Amen.
L'Éternel ton Dieu est le seul Seigneur. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. C'est là le premier et le grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aucun commandement n'est plus grand que ces deux-là. Seigneur, nous voulons être entre tes mains comme l'argile dans les mains du potier. Donne-nous ton esprit, ouvre nos cœurs et que ta parole nous façonne à l'image de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Et nous lisons dans l'évangile de Matthieu au chapitre 2, les versets 1 à 18 qui sont sur votre feuille de culte. Jésus était né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent « À Bethléem, en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. » Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer pour que j'aille, moi aussi, me prosterner devant lui. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Après leur départ, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu'à ce que je t'avertisse, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. » Joseph se leva. En la nuit, il prit l'enfant et sa mère et se retira en Égypte, où il resta jusqu'à la mort d'Hérode, pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète « D'Égypte, j'ai appelé mon fils. » Alors Hérode, voyant que les mages s'étaient moqués de lui, entra dans une violente fureur. Il envoya tuer tous les enfants jusqu'à l'âge de 2 ans à Bethléem et dans toute la région, d'après la date qu'il s'était fait préciser par les mages. Alors fut accomplie la parole prononcée par le prophète Jérémie, « Un cri s'élève dans Rama, pleurs et longues plaintes. C'est Rachel qui pleure ses enfants et ne veut pas être consolée, car ils ne sont plus. » Thank you.
la semaine dernière, c'était un psaume de bénédiction, le psaume de quelqu'un qui s'appelle Siméon. Il prend l'enfant de 8 jours dans ses bras. Il annonce que cet enfant est la consolation au sens fort, c'est-à-dire la restauration du peuple. Et aujourd'hui, c'est un cri, celui de Rachel, qui ne peut plus prendre ses enfants dans ses bras. Ils ne sont plus, ils ont été les victimes d'un despote, Hérode. Saisi, dit le récit, d'une violente fureur. Aujourd'hui, Rachel ne veut plus, et le texte dit bien qu'elle ne veut plus, et non pas ne peut plus, être consolée. Bethléem au sud, Rama au nord, ça se passe dans un territoire qui serait aujourd'hui celui de la Cisjordanie. Quelques années avant la date officielle et erronée, vous savez, de la naissance de Jésus. Oui, date erronée. Vous avez bien entendu dans ce récit qu'Hérode est encore vivant, donc ça se passe avant la date officielle. Oui, sans l'erreur de calcul d'un moine au VIe siècle, après Jésus-Christ, nous serions cette année en 2026 ou en 2031. Je ne trouve pas cette information bouleversante, sauf qu'elle fait partie de ce type d'information qui éclaire autrement le contexte historique de la naissance de Jésus. Jésus est né lors du règne, si l'on peut dire, d'un des plus grands despotes de l'histoire locale. Et Jésus ensuite a été élevé à Nazareth et a connu très jeune, dans sa région, des soulèvements populaires qui ont été fortement réprimés sous ses yeux d'enfant, et s'il était né quelques années plus tard, il n'aurait rien vu. Ce sont peut-être ces quelques années finalement de décalage entre la date probable de la naissance de Jésus et le début officiel et erroné de notre ère qui ont fait l'évangile tel qu'il est. À tout le moins critique vis-à-vis des pouvoirs en place. Rachel, c'est aussi le nom d'une figure importante de la Bible dans ce qu'on appelle l'Ancien Testament. Vous lirez son histoire très mouvementée dans le livre de la Genèse. Vous verrez entre autres ruses, celles qu'elle emploie pour bien que stérile, pour avoir une descendance. Et elle y réussit par divers moyens. Notre Rachel du jour, elle, n'a plus de descendance et ne veut plus aucun espoir. Alors certes, on pourrait résumer la fête de l'Épiphanie à une frangipane en forme de soleil et à l'élection d'un roi petit ou grand avec une couronne de papier doré. Mais outre le fait que la Bible, vous le savez, n'évoque ni le chiffre 3 pour les mages, ni n'accole le titre de roi à la fonction de mage, ça c'est anecdotique, le texte support de cette fête de la manifestation, c'est ce que veut dire épiphanie, la manifestation du Christ dans le monde, ce texte est d'abord l'histoire d'un enfant, et vous l'avez lu littéralement, entendu, un enfant qui échappe à un massacre, et ce grâce à un père prévenant qui amène sa famille en Égypte pour la protéger. À noter, mais je ne pense pas que cela soit une astuce de l'auteur, juste un lapsus, que les mages ont été avertis en songe de ne pas aller se faire tuer chez Hérode, et ont donc choisi un autre chemin pour rentrer chez eux. Cette information en songe aurait pu leur mettre, peut-être, tout mages qu'ils étaient, la puce à l'oreille quant à la dangerosité de ce roi, et ils auraient donc pu en avertir la famille dont ils étaient venus en grande pompe honorer le nouveau-né. Mais ils ne l'ont pas fait. Il a donc fallu qu'un ange souffle à l'oreille de Joseph qu'il vaudrait mieux décamper le plus vite possible, puisqu'un roi sanguinaire est jaloux d'un enfant, car c'est ça l'idée de ce texte. Cet ange qui vient avertir Joseph, à n'en pas douter, est un artifice littéraire. Joseph aurait pu très bien y penser tout seul sans son aide angélique. Car ce Joseph historique aurait sûrement connu Hérode. Hérode, historiquement, a été un personnage célèbre à cause de son immense cruauté. Il a fait assassiner un nombre très important de personnes et beaucoup de gens de son entourage proche, y compris ses fils. Et il a même ordonné qu'à sa mort, des gens soient exécutés pour qu'on trouve des raisons de pleurer le jour de sa mort. Voilà qui était Hérode. Et ce récit, qui est certes un conte merveilleux, est aussi, et parfois je me demande s'il n'est pas d'abord ça, un pamphlet. Hérode, officiellement roi des Juifs, grâce au soutien de la toute-puissance romaine, lui, tout imbu de sa puissance paranoïaque, rencontre des astrologues venus de nulle part qui cherchent justement, naïvement, où est le roi des Juifs qui vient de naître. Un récit qui ridiculise sa puissance, qui ne pourra finalement rien contre un enfant, et un récit, vous l'avez entendu aussi, qui se conclut par sa mort, laquelle permettra à cette famille de réfugiés de retourner chez elle, non pas à Bethléem, mais à Nazareth, en Galilée, un peu plus au nord. Ainsi, le texte choisi, voire écrit, pour illustrer cette fête très ancienne de l'Épiphanie, qui était d'abord, vous le savez, la fête de la lumière, avant d'être celle de la première manifestation du Christ, ce texte est beaucoup plus intéressant que ce que la tradition en a fait à base d'étoiles, d'encens, de myrrhe et d'or. Le Fils de Dieu, selon ce récit, se manifeste dans un monde de danger, tenu par des puissants misérables et peureux, où l'on massacre aveuglément, où des mères pleurent sans fin, où l'on est obligé de fuir pour sauver sa peau. Ce récit décrit simplement cette obstination de l'espoir au milieu des ravages les plus grands. Voilà ce que décrit ce récit. Certes, Rachel ne retrouvera jamais ses enfants, parce que l'espoir naissant, malgré tout, n'est pas un conte de fées où tout reviendrait à l'état normal. L'histoire qui se répète dans ses structures n'est néanmoins pas une boucle. L'espoir naissant au milieu des décombres n'est qu'un nouveau chemin qu'on empruntera sans rien oublier de ce qui s'est passé. Et ce qui m'émeut personnellement dans ce texte, c'est que Rachel est là, dans ce récit, depuis 2000 ans, pour qu'on ne l'oublie pas, celle qui, depuis 2000 ans, reste volontairement inconsolable. On notera aussi que cet enfant, trimballé dès ses premiers jours, sera appelé Sauveur. Et d'ailleurs, c'est ce que signifie son nom, assez courant, Jésus. Ça veut dire Sauveur. Mais on note ici qu'il a d'abord été sauvé lui-même du néant. Mais on peut aller encore plus loin. Et plus loin, ça veut dire encore plus proche de nous-mêmes. Nous tous, puisque nous avons été mis au monde, avons été inévitablement protégés de la mort dès nos premières années. La preuve en est que nous sommes ici, vivant et présent, pour fêter l'épiphanie. Alors je ne saurais trop vous recommander en ce début d'année et en cette fin de prédication de vous aussi vous manifester. Manifestez-vous. Faites votre propre épiphanie. Manifestation qui, je le rappelle, résulte du fait que vous avez été sauvé vous-même aussi de la mort. Faites de votre présence au monde un acte salutaire pour ce monde qui n'en peut plus d'attendre. Amen.